BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est enfin l'heure de votre émission, l'association de la semaine. La semaine dernière, nous recevions Jean-François Mérieux qui nous a parlé du SPN Vernon Foot. Et cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir une toute nouvelle association. Il s'agit du Saint-Marcel Vernon Handball, présenté par Julien Gambier et Jérôme Delaporte. Alors tout d'abord, bonjour, comment allez-vous?
Bonjour. Ça va, merci. Confiné, ça va. Bonjour.
Confiné, ouais, depuis quelques temps. On va commencer par se présenter. Qui êtes-vous? Qui est qui? Que faites-vous au sein du club?
Moi, je vais commencer. Donc, Julien Gambier, je suis le manager général du SMV depuis quelques semaines et mois maintenant. Donc j'ai en charge le pilotage de la structure et du projet dans sa globalité.
Et vous, monsieur Delaporte?
Alors, Jérôme Delaporte, donc, je suis l'entraîneur de l'équipe première masculine du club qui évolue en National 2. Je suis au club depuis 20 ans maintenant, donc j'y ai été joueur, entraîneur, quelques différentes fonctions.
D'accord. Ah oui, vous connaissez très bien le club maintenant.
Un petit peu, oui.
on va parler donc du coup un peu du club en lui-même, un peu le côté historique. Faites-nous un peu la présentation du club.
Bah, on va commencer sur les principales dates, mais le club et le SMV en tout cas est né en 98, mais le handball est né bien avant à Vernon. C'est en 1998, ça a été la fusion entre les clubs de Saint-Marcel et du SPN Vernon, donc sous, on va dire, l'impulsion des présidents de chaque club et de William Meriel qui a été président du club pendant une vingtaine d'années. Et qui a notamment permis, Jérôme vous en parlera mieux que moi, mais d'accéder à l'élite du handball français en 2006. Un peu pour l'historique raccourci. Jérôme peut vous en parler encore mieux que moi.
Oui, les deux clubs historiquement, j'allais dire un petit peu se tirer la bourre chacun de leur côté. Et en effet, sous l'impulsion de certains dirigeants, ils ont réussi à mutualiser les compétences et les joueurs, puisqu'il y avait pas mal de joueurs qui faisaient un petit peu les allers-retours entre Saint-Marcel et Vernon.
C'était un peu les deux clubs vraiment du coin, quoi.
C'était les deux clubs, et à un moment donné, ça a pu se faire aussi, puisque les deux clubs évoluaient au même niveau. Et donc, l'aventure a commencé en 98, et c'est vrai que sur les années 2000, on a eu la chance d'avoir un vivier de joueurs qui nous a permis de monter les divisions. On est passé de la National 3 à la LNH en 6 années.
Ah oui.
Et donc, ce qui a fait connaître à la fois les deux villes, mais aussi le club du SMV qui a fait partie des 12 meilleurs clubs français pendant une année, malheureusement. Mais,
voilà. Oui, une année au sein du top du championnat français.
Voilà, donc si on reprend sur les 20 dernières années, le niveau, on va dire, moyen du SMV était plutôt sur de la deuxième division, quoi.
Ouais.
Voilà, donc, c'est vraiment une terre de handball, et je dirais que le public a toujours répondu présent. Il y a toujours eu un engouement fort pour le handball sur le territoire vernonnais et saint-marcellois.
Vous jouez à la salle du Grévarin, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ouais.
Alors, il n'y a pas eu la salle du Grévarin, n'est pas sélectionnée pour les Jeux Olympiques 2024 pour la préparation, c'est ça?
Alors, en effet, c'est la ville de Vernon a candidaté pour être ce qu'on appelle base arrière des Jeux Olympiques, donc dans le dispositif Terre des Jeux 2024. Et le comité olympique a sélectionné plusieurs équipements dans différentes villes, afin de permettre aux nations qui souhaitent venir se préparer aux Jeux Olympiques de pouvoir disposer des équipements. Et le Grévarin a été retenu dans ce dispositif. Donc potentiellement, des nations sont intéressées pour venir se préparer aux Jeux Olympiques, donc dans deux sports, comme le handball, et aussi sur un sport paralympique, le volley, ce qui s'appelle le volley assis.
D'accord, voilà. Ok. Ça prouve quand même que vous avez une infrastructure très, très, très intéressante, très, très professionnelle.
Oui, c'est sûr. Après, la chance qu'on a, c'est d'avoir des collectivités qui accompagnent, qui ont accompagné le handball et qui l'accompagnent encore très fortement. L'infrastructure du Grévarin qui avait été, remise au goût du jour lors de la montée en LNH en 2006, Et évidemment, un très bel équipement et surtout très adapté aujourd'hui à notre club, voilà, dans sa dimension et son organisation. Donc, on a eu la chance que la SNA, le Centre Mondial d'Agglomération, nous permette d'avoir accès à un nouveau sol cet été, avec la mise en place d'Angerflore, qui est un sol, voilà, international, même si pour les puristes, on a tous versé une petite larme pour le parquet du Grébarin, mais voilà, c'est ça a notamment permis, ça faisait partie des conditions et pour nous de continuer notre progression et pour l'accueil des Jeux Olympiques 2024.
C'est important pour vous de quand même pouvoir continuer à grandir petit à petit, j'imagine.
Oui, aujourd'hui, on a lancé en début d'année un travail d'écriture collaborative sur un nouveau projet, sur la nouvelle Olympiade, justement, 2024. Parce que le club avait besoin de se restructurer ou de réfléchir à une nouvelle organisation et un nouveau modèle pour s'adapter aux contraintes d'aujourd'hui. Et on s'aperçoit aussi que l'ancien président William Muriel, qui a énormément donné pour le club, c'est un modèle avec un mécène qui ne convient plus, on va dire, au système actuel et à l'environnement actuel. Voilà, on a besoin de reconstruire le club aujourd'hui et d'imaginer ce nouveau modèle pour lui permettre de continuer et à progresser et à rester à un niveau national le plus élevé possible.
Besoin de reconstruire le club, c'est-à-dire financièrement, avec des sponsors?
Oui, ben sur l'aspect financier, le club a connu de grosses dettes sur les trois dernières années, extrêmement difficiles. Il y a évidemment cette reconstruction financière et qui nous oblige de toute façon à réfléchir, voilà, au nouveau modèle et à revoir notre ancrage sur le territoire, retravailler le lien avec tous les membres de notre environnement, que ce soit les partenaires, mais aussi les licenciés, les familles, tout l'environnement du club aujourd'hui avec lequel on doit renouer du lien dans ce nouveau projet.
Parce que le club a été relégué à cause de ses soucis financiers, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Oui.
C'est pas à cause de soucis sportifs ou quoi que ce soit, sportivement, le club était en place.
Oui, tout à fait. Le club avait obtenu son maintien sportif sur la saison 2018-2019 en Pro League, mais ça a été une saison financièrement catastrophique, hein, il faut le dire, qui a engendré deux descentes consécutives. Parce que les deux descentes, en fait, proclamées par la commission de gestion, l'ont été par rapport à cette saison 2018-2019.
D'accord, ok, donc c'est vraiment une saison catastrophique d'un point de vue financier qui vous a fait vous retrouver uniquement en National 2, uniquement entre guillemets bien sûr, alors que vous étiez installé, c'était en deuxième division du coup, c'est ça?
Oui, tout à fait, et voilà, bah après c'est aussi une façon, alors très difficile, très dure, pour le club, ses supporters et son environnement, mais de s'apercevoir aussi qu'aujourd'hui les niveaux professionnels dont la D2 fait maintenant partie sont extrêmement difficiles à atteindre en termes d'obligations, en termes de capacité financière aussi. Aujourd'hui, ils font un budget d'1,1 million, pour avoir ne serait-ce que le droit de pouvoir participer à la Pro League. Donc c'est des conditions qui deviennent extrêmement difficiles et pour lesquelles il faut arriver à construire ce nouveau modèle pour espérer peut-être retrouver ce niveau-là.
Et aujourd'hui, vous en êtes à un budget d'à peu près combien au sein du club?
Environ 700 000 euros aujourd'hui pour la saison qui arrive.
Et pour 1 100 000, c'est vraiment pour pouvoir participer, c'est même pas forcément pour pouvoir y performer du coup.
Exactement, oui, la preuve, quand on a dépensé 1 100 000 en 2018-2019 à peu près, enfin 1 million, entre 1 million et 1 100 000, ça nous a permis de nous maintenir à la dernière journée. Jérôme vous en parlerait encore mieux que moi sur la partie sportive, mais l'argent n'est même pas, le budget minimum n'est même pas gage aujourd'hui de stabilité et d'assurance sportive. On fait du sport, donc vous pouvez même avoir les meilleurs joueurs que vous voulez, c'est pas pour ça que ça marchera non plus.
Du côté du sportif, pardon, comment est-ce que vous avez vécu toute cette période où finalement c'est financièrement que ça a pas marché et alors que sportivement vous étiez au niveau, comment est-ce que vous l'avez vécu, que ce soit vous en tant qu'entraîneur ou vos joueurs avec qui vous êtes très proche, j'imagine?
C'est toujours une déception, hein, puisque lorsqu'on participe à un championnat, que ce soit les joueurs ou l'entraîneur, on a toujours la volonté de performer, de gagner le maximum de matchs. Ensuite, lorsqu'il y a une relégation, alors que sportivement, on avait obtenu notre maintien, c'est en effet une déception et l'impression un petit peu d'avoir fait beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Après, ça, c'est une réaction, un petit peu à chaud et sur le coup de la décision. Mais comme l'a évoqué Julien, à un moment donné, il y a aussi dans les réflexions à avoir la sauvegarde de tout un club. Et aussi de voilà, on a connu par le passé dans d'autres villes des champions de France de première division qui ont déposé le bilan et qui ont disparu ou en tout cas qui ont mis plus de 15 ans à revenir. Donc il y a toujours ce discours à avoir et cette volonté de préserver aussi l'entité et tous nos licenciés. Donc je crois que c'est toujours dur à vivre sur le moment. Maintenant, ce que j'ai dit aux joueurs en début de saison, hein, faut pas s'apitoyer sur notre sort. On part sur une autre compétition, un niveau en effet inférieur, mais on n'a obligé personne à être avec nous. Que ce soit les joueurs consignés qui nous ont rejoints, et je dirais même moi-même, puisque l'an dernier j'étais pas en charge de l'équipe première, mais quand Julien m'a proposé de reprendre l'équipe, bah, j'ai accepté, mais sans me plaindre. Et je veux dire, voilà, j'aurais pu refuser parce que si j'étais pas content de la situation, j'aurais pas accepté le poste. Donc voilà, donc c'est toujours compliqué. Maintenant, bon, là, il y a l'actualité qui fait que cette saison sera aussi
très compliquée.
Très compliquée, voilà, de par la situation. C'est pareil, on peut analyser ce qui se passe en se disant, là, moi aujourd'hui, ce que je souhaite au club, aux joueurs, aux licenciés, c'est surtout que dans leur environnement, ils ne soient pas trop touchés par,
pas trop impactés.
Par cette maladie et que leurs proches puissent être en bonne santé. Même si on a tous envie de continuer à pratiquer le sport et à être ensemble, à vivre des moments intenses sportivement, mais aussi humainement. Donc, je pense qu'il faut relativiser et essayer de prendre les choses dans l'ordre.
Et sportivement, vous aviez pu déjà faire un peu des matchs cette saison ou est-ce que ça était impossible ?
Bon, on a pu jouer les deux premières journées. On s'est imposé sur le premier match contre Saran ici à Vernon. Et malheureusement, on a été perdre sur le deuxième match à Dreux. On a joué deux matchs sur les 10 matchs qui étaient prévus sur cette première phase qui devait se terminer le 14 décembre, si je ne me trompe pas. Là, on sait très bien que à un moment donné, cette première phase, on la jouera peut-être un jour, mais je ne sais pas quand.
Ouais, c'est ça. Parce que là, avec toute la période dont on vient de rentrer dans le confinement, là, ça paraît évident que pour vous, vu que toutes les structures sportives ferment, c'est impossible pour vous de pouvoir continuer le championnat, de pouvoir même continuer de vous entraîner.
C'est impossible. Alors, il n'y a rien d'impossible dans le fait de continuer à s'entraîner. Tout dépend de l'activité. Le premier confinement nous a amené à, que ce soit dans le monde du sport, mais aussi dans le monde professionnel, à faire pas mal de visio, même sous sein privé, de pouvoir voir la famille par visio. Donc il y a toujours des choses qu'on peut mettre en place, notamment sur le travail physique, notamment de gainage, de renforcement, où on peut imaginer qu'on puisse essayer de mettre en place des séances où on serait tous en visio et qu'il y a un petit travail physique à faire, parce que l'impact d'un arrêt complet de sport est dramatique pour des sportifs
de haut niveau.
Qui s'entraînent 6 à 7 fois par semaine.
Ouais, non, c'est terrible. Parce que tu mets tellement de temps à revenir après à un niveau quand t'es vraiment arrêté longtemps.
Mais ouais, c'est ça. C'est que l'arrêt, un petit arrêt, même de 15 jours, 3 semaines.
Ouais, c'est ça.
À zéro, quoi.
On me disait toujours une blessure et t'es arrêté un mois, faut mettre au moins 2 mois pour revenir à un niveau.
C'est des indicateurs qui sont en effet valables. Et puis là, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas de vue sur
l'avenir.
Quand on s'arrête en fin de saison au mois de juin, on sait que on va reprendre l'entraînement au mois d'août.
Ouais.
Donc on sait qu'on a une coupure de 4 à 6 semaines et on a une vue là, on sait pas. Donc même pour les joueurs, c'est difficile de se projeter sur demain. Je vais leur dire, on va faire des visios pour se maintenir en forme et tout ça. Ils ont pas cette carotte au bout là pour préparer
quelque chose. L'objectif.
Mais bon, on va s'adapter. De toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, c'est la santé de chacun qui est importante.
Ouais. Est-ce que cette période risque de frustrer encore un peu plus vos joueurs parce que le côté physique c'est très important, mais quand on joue au hand, il y a l'envie de toucher la balle et tout seul c'est compliqué.
C'est ça, je pense que si ils aimaient tant courir ou faire du renforcement, il serait inscrit à un autre sport.
C'est ça.
Donc notre sport, c'est quand même de toucher le ballon et puis de jouer. Voilà, c'est après voilà, c'est la deuxième fois cette année pour donc c'est là où c'est.
C'est là où c'est dur.
C'est dur et on pensait tous que cette histoire était derrière nous, mais malheureusement elle revient et d'après ce qui se dit, elle revient un peu plus fortement que la première période.
C'est ça. Et là, avec le problème vraiment de ne pas avoir de vue sur l'avenir, que ce soit sportivement, mais aussi même financièrement, j'imagine que c'est pas non plus le plus simple à aborder toute cette partie.
Oui, après, la plus grosse difficulté, elle n'est pas valable que pour nous, elle est valable pour tout le monde, c'est la difficulté à avoir des perspectives et à savoir à partir de quand on va vraiment pouvoir revenir à un schéma normal. Donc on s'adapte, on essaye de proposer des choses nouvelles aussi à nos partenaires. Comme on a du mal à avoir un peu de perspective et savoir quand tout ça peut s'arrêter, c'est évidemment compliqué. Donc on s'adapte, on propose des choses et voilà. J'espère que ça s'arrête le plus vite possible pour tout le monde.
Revenons un peu sur le club, sa globalité. Vous avez combien de catégories, combien d'équipes différentes? Est-ce que vous avez des équipes féminines aussi?
Oui, le club aujourd'hui a plus de 300 licenciés, dont un tiers de filles. Dans chaque filière féminine et masculine, toutes les catégories sont représentées, de l'école de handball jusqu'aux catégories adultes. Donc, c'est-à-dire chez nous, ça fonctionne dans moins de 11 ans, moins de 13 ans, moins de 15 ans, moins de 17 ans, et les adultes. Donc aujourd'hui, toutes les catégories sont représentées. Les filles et les garçons sont en championnat de France jeunes aussi, en convention avec d'autres clubs du département. Il y a eu un travail, parce qu'on parle souvent de l'aspect financier, mais il y a eu un vrai travail de reconstruction aussi sur cette partie amateur qui avait été engagée, avec des salariés, avec toute une équipe technique, des bénévoles aussi qui sont venus rejoindre l'équipe technique. Donc il y a vraiment un travail important qui a été mené, un centre d'entraînement qui a été ouvert au lycée du Mézil, des choses, voilà, des interventions dans les écoles, des choses, des projets arc-en-ciel. Donc il y a énormément de projets qui ont permis aussi de redynamiser le secteur amateur et qui permet justement de retrouver cette force collective dont on a besoin. Donc aujourd'hui on est à plus de 300 licenciés, un tiers de filles ou de femmes. Donc c'est des indicateurs qui pour le club sont hyper positifs. Depuis 3 ans maintenant. Oui.
Parce que j'imagine que pour un club comme le SMV, tout le travail de formation est très important.
Oui, ça a toujours été dans l'ADN du club. Après, la difficulté, c'est évidemment de mener de front la formation des jeunes joueurs, des jeunes joueuses, la performance et la compétitivité de nos équipes, et notamment de notre équipe première garçon. Donc, tout ça a des coûts, les salariés, ça a un coût, ces structures d'entraînement ont un coût. C'est d'autant plus difficile de maintenir son équipe première à un certain niveau de jeu quand vous êtes dans ces stratégies-là. Évidemment qu'un joueur formé en local vous coûtera peut-être un peu moins d'argent que des joueurs que vous allez chercher à l'étranger ou ailleurs. Pour autant, c'est un travail qui demande du temps, c'est un travail qui demande de la structuration, de l'organisation.
Du très long terme, quoi.
Et du très long terme, et ça a un coût, évidemment. Même si ça a été l'ADN du club, c'est des choses qui doivent être repositionnées, restructurées, de manière à en tirer une rentabilité, pas que financière aussi, humaine, structurelle, la plus intéressante possible.
Vous disiez que vous aviez des équipes de jeunes en championnat de France jeunes, c'est ça?
Oui, tout à fait. Les moins de 18 ans garçons en championnat de France et les moins de 17 ans féminines sont en championnat de France, en convention avec d'autres clubs du territoire.
Alors comment ça se passe cette convention? Qu'est-ce que c'est?
Mais en fait, tout simplement, comme disait Jérôme tout à l'heure par rapport à l'histoire du club entre Saint-Marcel et Vernon, qui se réunissent leurs forces et leurs moyens et qui mutualisent, c'est exactement le même principe. Chaque club garde son identité et sa structure, mais vient participer au projet, soit en amenant des licenciés, soit en amenant des moyens humains, matériels, financiers. Donc aujourd'hui, chez les garçons, il y a 4 clubs qui composent cette convention, et 3 chez les filles. Donc chaque club y apporte sa pierre comme il le peut.
Et comment ça se passait jusque-là, le championnat, alors, pour ces clubs-là?
Pour l'instant, les deux équipes avaient réussi à jouer tous leurs matchs, parce qu'on est sur des championnats jeunes, donc les mineurs avaient toujours accès aux salles dans tous les départements. Donc ils avaient pour l'instant réalisé tous leurs matchs. Les garçons avaient remporté 1 match sur 3 et les filles 2 sur 2, je crois.
D'accord. les filles sont déjà à un bon niveau alors du coup.
Ou une victoire et une défaite peut-être pour les filles, pardon. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, non, c'est des équipes jeunes qui sont performantes, compétitives, parce qu'elles réunissent aussi les meilleurs garçons et filles du département. Donc, c'est des équipes qui sont déjà effectivement plutôt compétitives et très bien encadrées.
Et pour conclure, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Une page Facebook, un site internet ?
Oui, évidemment, le site internet du club, www.smv-handball.com, il y a tous les réseaux qu'on connaît aujourd'hui, Facebook, Twitter, Instagram, voilà, y a, le club est aujourd'hui actif, proactif sur tous ces réseaux-là, et d'autant plus sur la période qui va nous revenir.
Eh bien, merci beaucoup Jérôme Delaporte et Julien Gambier d'être venus nous présenter le SMV Handball. L'émission touche à sa fin, merci d'être venus à vous deux, et nous, on vous dit à la semaine prochaine.